Le journal Ramambaï. Processus électoral en panne à Kikwit dans le Bandundu. Les bureaux d'enregistrement des candidatures n'ont toujours pas ouvert les portes. Motif, la grève des opérateurs de saisie. Fièvre hémorragique suspectée à Bumba. Deux personnes présentant des symptômes sont mortes. On attend les résultats d'analyse de Kinshasa pour déterminer la nature du virus. À Kinshasa, nouvel affrontement entre les bandes rivales des jeunes de Yolo Sud. Le groupe des salopards a été attaqué par les Zoulous et les Allemands. Un conflit qui a fait plusieurs dégâts matériels. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pas d'ouverture de bureau d'enregistrement des candidatures à Kikwit dans le Bandundu. Pour cause, les opérateurs de saisie qui travaillent dans les bureaux d'enrôlement de Fechi manifestent depuis vendredi dernier. Ils y sont affectés depuis octobre 2005. Ces 35 opérateurs bloquent donc l'accès aux bureaux d'enregistrement pour réclamer leur prime. Fabien Kambinzi.
Pas de changement même ce lundi. L'ouverture officielle du bureau de réception et traitement des candidatures devrait intervenir samedi passé. L'annonce a été faite par le chef du bureau de liaison Kikwit devant une trentaine de représentants des partis politiques et indépendants à la mairie de Kikwit. Mais les opérations n'ont malheureusement pas commencé le même samedi. Suite à l'incident causé par les opérateurs de saisie délocalisés de Bandundu-Ville à Fechi en transit à Kikwit, ils ont interdit l'accès aux agents de la CI, fermant le bureau à cause des non-traitements de leur prime après les opérations d'enrôlement à Fechi depuis le 7 octobre 2005. Toutes les négociations du samedi au dimanche n'ont pas abouti. Contactés par Radio Okapi, certains responsables des partis politiques crient au sabotage du processus électoral au Bandundu à cause du silence de la hiérarchie de la CI dans cette crise. Kikwit, Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Le coordonnateur provincial de la CEI Bandundu certifie que ses 35 agents seront payés à partir du 20 mars prochain. Par ailleurs, Bonarguez Mpati invite les autorités politiques et administratives de Kikwit à faciliter la tâche au bureau de liaison pour la poursuite des opérations d'enregistrement des candidatures. Il est joint au téléphone par René Capita.
Il y a la cellule administrative et financière qui travaille. Et cette cellule a dégagé un relevé de litiges à régulariser. Il est demandé pratiquement à tous les coordonnateurs, et spécialement au coordonnateur provincial, de pouvoir finaliser ces relevés de litiges à régulariser. Jusqu'au 15 et au plus tard le 20 de ce mois, la commission sera à même pour appuyer ces litiges. Donc, aux alentours du 20, un fait est certain que cette situation trouvera solution. Il est donc demandé aux autorités de la ville de Kikwit d'apporter un soutien au bureau de liaison et de faire comprendre à ces opérateurs de saisie qu'il va falloir faire preuve de peu de patience parce que la commission s'y attelle pour apporter des solutions à ces problèmes.
Troisième journée depuis l'ouverture officielle du bureau de réception et de traitement des candidatures au poste de député. À Bounia, aucune candidature n'a encore été enregistrée. Cependant, les premières personnes passent pour retirer le formulaire d'enregistrement que chaque candidat député doit remplir. Parmi ces personnes, un candidat venu du territoire de Mambasa, territoire situé à environ 156 km au sud-ouest de Bounia, chef lieu du district de l'Ituri. Monsieur Emmanuel Lekou explique le sens qu'il accorde à ce déplacement au micro de Marcel Ngombo.
Ce que moi je voudrais présentement, c'est être présent au rendez-vous et que je ne saurais pas rater les moments venus parce que du côté Mambasa, ça fait beaucoup de temps, beaucoup de décennies, on nous a toujours considéré les gens qui ne veulent pas d'habitude se présenter, ils ont moins d'intérêt sur ce qui est politique. Alors moi je ne voudrais pas donner cette image encore aujourd'hui face à l'évolution du monde. Alors c'est comme ça que je suis venu.
A signaler également l'arrivée depuis samedi dernier au bureau de liaison de la CEI Bounia d'une équipe de formateurs venus de Kinshasa pour former les agents du bureau de réception et de traitement des candidatures. Le Conseil de sécurité ne peut décider de la rouverture des bureaux de vote. C'est à la CEI que revient cette décision. Le secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de paix s'est exprimé ainsi à son arrivée aujourd'hui à Mbujimayi au Kassai Oriental. Jean-Marie Guénot a rencontré successivement les autorités provinciales, les partis politiques et la société civile. Jean-Marie Guénot est au micro de Julien Nyamouni.
Sur le plan technique, il y aurait un grand risque de retard très important lors des élections. Si on devait rouvrir les bureaux de vote. C'est ce qui inquiète, je crois, le président de la commission électorale indépendante. Il faut réconcilier deux choses, ne pas retarder excessivement les élections et avoir de bonnes élections. Je constate, au vu des chiffres des électeurs qui se sont inscrits au Kassai, qu'il y a eu beaucoup d'inscriptions au Kassai. Peut-être que tous, absolument tous les électeurs ne se sont pas inscrits, il y a quand même eu un nombre important d'inscriptions. Et on voit bien, d'ailleurs, du décalage entre les électeurs qui se sont inscrits et les électeurs qui ont voté pour le référendum, qu'un certain nombre d'électeurs qui n'étaient pas d'accord sur la symbolique, disons, de l'adoption de la Constitution, ont manifesté par leur abstention au moment du référendum leur désaccord.
Jean-Marie Guénot, secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. À Bumba, province de l'Équateur, le médecin-chef de zone de santé suspecte 2 cas de fièvre hémorragique. 2 malades présentant des symptômes de la maladie sont mortes. Information confirmée par l'antenne provinciale de l'OMS Équateur. Des échantillons prélevés ont été envoyés à Kinshasa pour identifier le virus qui a tué les 2 malades. Dominique Colombi.
Selon le médecin-chef des zones de santé de Bumba, les 2 personnes décédées sont un conducteur de taxi-vélo et sa passagère. C'est la passagère qui l'a transportée au niveau de Mobaye Mbongo à 18 km de Badolité alors qu'il se dirigeait vers Bumba, qui est morte la première. Docteur Faustin Bile, médecin-chef des zones.
La passagère a présenté de la fièvre et 2 jours après, elle était décédée. L'étoléquiste a continué son voyage jusqu'à Bumba. Arrivé à Bumba, il a commencé à présenter les mêmes signes. Fièvre, courbature. 2 jours après, il a commencé à saigner de partout. 3 jours après, il est décédé. Quand on a posé les diagnostics selon la définition des cas, nous avons pris toutes les précautions pour l'isoler, pour qu'il ne soit pas en contact avec les membres de sa famille, les corps soignants.
L'étoléquiste ou conducteur de taxi-vélo a dû fréquenter 300 de santé avant d'arriver à l'hôpital de référence de Bumba. Malgré l'ordre donné par les autorités médicales d'enterrer l'étoléquiste immédiatement après son décès, la famille a fait la sourde oreille. D'autres cas de suspicion de la fièvre hémorragique Ebola ne sont pas encore enregistrés. La police est mobilisée pour faire respecter la mise en quarantaine provisoire des personnes qui étaient en contact avec l'étoléquiste décédé. De Mbandaka, Dominique Wolombi Mongapa. Radio Okapi.
À Uvira, au sud Kivu, un lot de 316 tonnes de farine de froment a été suspecté d'impropre à la consommation par le service de sécurité au port de Kalundu. Environ 6 330 sacs de farine ont été déchargés du bateau Kabambare, mais les emballages n'ont porté aucune mention sur la date de fabrication ni de péremption. L'ANER, qui a saisi le service spécialisé, l'Office congolais de contrôle, attend qu'un résultat d'analyse technique lui soit fourni. Pour le chef d'agence de l'OCC Uvira, Benjamin Aluzumbali, un moratoire a été adressé aux opérateurs économiques de fournir l'étiquetage et la datation de produits importés portant date de production et de péremption codée. Il s'explique au micro de Fiston Goma.
Cette maison-là, ce n'est pas la première à importer des produits dont la date de péremption et la date de fabrication n'est pas clairement définie sur les emballages. Nous avons donné un moratoire. Disons que le moratoire pourra s'achever d'ici la fin du mois de mars. Nous sommes en train de sensibiliser nos partenaires, les opérateurs économiques, les déclarants en douane, et tous ceux-là qui interviennent dans le cadre des circuits du commerce international. Et en ce qui concerne les premières étapes, l'analyse par les organes d'essence, elle doit d'abord voir la couleur de cette farine là-bas, elle sent, elle peut aussi goûter même de la farine là-bas sur la langue. Et puis maintenant, elle prélève un échantillon qu'elle doit envoyer à Bukavu pour les 2 autres étapes. Donc nous sommes sûrs, du moins, que pour la quantité de la farine, la quantité est encore intacte et n'est pas encore mise en consommation en attendant les résultats d'analyse.
Contacté, l'importateur de cette farine explique qu'il n'y a jamais eu de date de péremption sur les sacs de farine importés au sud Kivu depuis ces 20 dernières années. La situation est redevenue relativement calme sur l'axe Bukavu-Bunia-Kiriombo. Nous sommes là toujours dans le sud Kivu, cela une semaine après la fin des opérations militaires FRDC-MONUC contre les combattants hutu-rwandais dans le secteur. Le trafic reprend petit à petit sur cette voie d'intérêt agricole, mais seulement, voilà, la population reste inquiète et craint la riposte des combattants hutu-rwandais. Serge Maéché.
Depuis l'entrée du parc Kahuzi-Biega, aucun barrage de militaires FRDC n'est sur la route. Seuls quelques piétons marchent transportant leurs produits agricoles. Selon le responsable de l'administration à Bunyakiri, les récentes opérations MONUC FRDC ont permis de chasser les combattants hutu-rwandais de la zone jusqu'à la lisière de la forêt. C'est pourquoi plusieurs habitants ont peur de se rendre dans leurs champs éloignés, craignant de se faire kidnapper par des FDLR. Les soldats FRDC continuent d'occuper les anciennes positions des combattants hutu-rwandais reprises au cours de l'opération militaire. Plus loin, dans la localité des Hombo, le chef de poste est inquiet. Tous les combattants chassés du sud Kivu sont passés au nord Kivu où, selon lui, ils ne sont pas inquiétés par les militaires de la 8e région. Kwabe Nengo Merero, chef de poste de Hombo.
Je pense que la situation est un peu calme. Mais sauf que la population se lamente que peut-être après cette opération, les AFDLR viendront encore les attaquer. L'autre côté, à Hombo Nord, toutes les localités sont occupées par les AFDLR. Ici, à Hombo Sud, les militaires sont en pleine opération, mais Hombo Nord non plus. Avant les opérations, la population qui habitait les localités éloignées de la route était déjà déplacée.
Cependant, le commandant FRDC du secteur nous a indiqué que la 8e région militaire devrait très prochainement débuter des opérations contre les combattants hutu-rwandais au Nord Kivu. Serge Maéché, Bukavu, Radio Okapi.
Nord Kivu, la population de la localité de Nyabiondo, en territoire de Masisi, fatiguée de prendre en charge les militaires. Ces habitants qui ont regagné leur village après un long déplacement vers Walikale sont maintenant obligés de nourrir chaque jour ces soldats. À cela s'ajoutent aussi de nombreuses extorsions dont ces habitants sont victimes les jours du marché de la part de ces mêmes soldats armés mais qui pour la plupart sont en civil. Moïse Mutunga.
Les militaires dont il est question sont ceux du 813e bataillon basé dans la localité de Nyabiondo. Ici, chaque village est obligé de se cotiser pour nourrir ses militaires. Une rotation d'approvisionnement en vivres par semaine est ainsi exigée dans chaque village par ses militaires. Et ce sont les chefs de ces villages qui sont obligés chaque semaine de rassembler cette nourriture. Les autorités locales déplorent cette situation. Ils la déplorent d'autant que les habitants qui sont appelés à contribuer sont en majorité des retournés du secteur d'Osso qui avaient fui des combats enregistrés à Nyabiondo il y a de cela plus d'une année. Dunia Mufano, chef du secteur d'Osso en territoire de Masisi.
Plus souvent, la région militaire envoie la ration militaire 50 jours après. Maintenant, pendant tout ce laps de temps, c'est la population qui supporte les militaires. Or, une population qui vit à peine de rentrer, qui n'a pas les moyens de pouvoir nourrir sa famille, doit encore nourrir les militaires.
Toujours selon ces sources administratives, même les jours du marché, les cultivateurs qui vont vendre leurs produits agricoles sont obligés de laisser une partie de leurs marchandises à des barrières érigées par ces militaires. Du côté de la 8e région militaire, des sources militaires affirment que chaque mois, les commandants des unités reçoivent les sortes des hommes et des troupes à leur charge, en plus des montants alloués pour la ration militaire. De Goma, Moïse Mutunga Lukube, Radio Okapi.
18h13 à Kinshasa, vous écoutez Radio Okapi, la suite du journal.
À Kinshasa, les bandes rivales des jeunes se sont à nouveau affrontées au quartier Yolo Sud ce week-end. D'après les témoignages, le groupe des salopards a été attaqué par trois groupes rivaux, les Zoulous, les Allemands et ceux du Royaume. Des dégâts matériels importants étaient enregistrés. Plus de 250 casiers de bouteilles vides sont cassés. Ces jeunes se servent d'habitude des bouteilles pendant leur bagarre. Cette situation est décriée par le bourgmestre de la commune de Kalamu. Jean-Claude Kadima dénonce une complicité des autorités et un dysfonctionnement de la justice. Il est au micro de Nazer Nkoko.
Souvent, on les arrête, mais la loi dit que la police peut garder soit un criminel, soit quelqu'un qui est accusé, 48 heures de détention. De passer cela, la police transfère l'incriminé au parquet. C'est au niveau du parquet, hein? Savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se fait pour que ces incriminés-là soient libérés. Même moi qui vous parle, je me sens vraiment dans l'insécurité. Là, je peux vous le dire, parce que j'organise toutes ces opérations-là. On arrête. Arrivé quelque part, le monsieur-là donne ça l'argent et il est libéré. Et d'où proviennent tout cet argent-là? Parce que ces jeunes gens-là vraiment viennent de familles-là qui n'ont pas vraiment de moyens. Mais quand on les arrête, il y a des gens qui se présentent avec des $500, des $600 payés pour la libération de ces gens-là.
Interrogé sur la responsabilité de la justice, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kalamu a déclaré que la police et la justice ne disposent pas de moyens appropriés pour éradiquer ce fléau. José Liongo plaide par ailleurs pour une action concertée par les différents services concernés pour neutraliser ces associations de malfaiteurs. Élargissement de la magistrature au Maniema. 6 nouveaux magistrats viennent de la rejoindre. Ils ont prêté serment samedi devant la cour. Ceci pourra donner un coup de pouce au fonctionnement de la justice dans la province. Mesdames, Messieurs, il est 18h15 à Kinshasa. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne suite de programme sur Radio Capi.